Cette nuit, il dormit comme une bête durant 6 heures. Le réveil commença par une espèce de réémersion, lente et sans lucidité. Il avait l'impression de s'être déjà réveillé peu de temps avant, et à ce moment précis, il perdait conscience. C'était un va-et-vient entre l'obscurité et la lumière, sans réaction ni souvenir. S'il ouvrait légèrement les paupières, la lumière s'y posait comme une feuille sur une pupille aveugle. Aucun mouvement du corps n'accompagnait cette série de pertes de conscience. Il ne pouvait distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas, et comme sous l'effet de ce type de cachet, il ne rêvait jamais, il avait l'impression que les rêves se présentaient le matin, les yeux ouverts, tous ensemble, peu avant qu'il se lève, et qu'il aille dans la salle de bain pour se laver. Dans cet espace de temps, presque une heure qu'il n'aurait su mieux définir que comme les limbes, on aurait pu sonner à la porte, il n'aurait pas ouvert, il se serait demandé un instant si l'on avait sonné ou non, et tout de suite après, il l'aurait oublié. Bata, le seul à posséder la clé de son petit appartement, aurait pu entrer. Il se serait demandé si quelqu'un était entré, et tout de suite après, il l'aurait oublié et se serait senti plus seul que jamais. Dans l'espace de ces limbes, tout pouvait arriver. Dans un certain sens, c'était l'espace de la possibilité absolue. Franco ne se sentait pas artiste, mais il sentait que s'il l'avait été, ce n'est que dans cet espace qu'il aurait pu l'être. Dans cet espace, tout renaissait, tout neuf, comme venant d'être créé, et rien ne pouvait passer inaperçu. Il se rappelait qu'un jeune artiste qui avait exposé à la Biennale cette année même était devenu fameux pour un tableau photographie dans lequel on voyait flotter dans l'air une dizaine de bulles de savon baptisées A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sous le tableau, intitulé « Démonstration pratique de ma perception visuelle des distances », l'artiste indiquait par une série de graphiques les distances en centimètres entre A et B, A et C, C et D, etc. Un critique étranger, voulant soumettre le tableau à une épreuve technique, l'avait fait reproduire en 2 copies, les avait mises l'une à côté de l'autre et les avait observées avec une lunette à vision tridimensionnelle. Il avait ainsi constaté qu'en effet, lorsque l'artiste indiquait une distance double, elle était double. Lorsqu'il indiquait une distance triple, elle était triple, et il en était resté tout déconcerté. « À quelle heure du jour avez-vous lu ces distances sur la photographie ? » avait-il demandé à l'artiste. Et l'artiste avait répondu « Après la nuit, après le jour. » Franco était certain d'avoir compris. L'artiste dormait le même sommeil chimique, sans conscience, sans rêve. Et au réveil, il traversait les mêmes limbes. La redécouverte du monde à partir de zéro. Et tout d'abord, on est frappé par sa propre grandeur et par la dimension de son corps. Au moment de se mettre debout, Franco sentait que l'acte de se lever était interminable. Non pas tellement de se dresser de la position horizontale à la position verticale, mais surtout de croître sur soi-même et de devenir si grand qu'aucun souvenir ne le justifiait. Comme un écrou vissé sur un filet qui vient buter sur le contre-écrou qui devrait le bloquer, mais qui, au lieu de s'arrêter, continue à se dévisser et à monter, entraînant avec lui le contre-écrou, faussé jusqu'à sortir du pivot. Dans l'acte de se lever, la sensibilité devenait si aiguë que si la tête oscillait légèrement, les yeux voyaient les choses se rapprocher et s'éloigner de 1, 2 cm et trembler continuellement sur une fraction de centimètre, sur quelques millimètres. Rien n'était immobile, rien n'avait de poids. On ne pouvait que regarder son propre corps, on ne le sentait plus. Il n'y était pas, il pouvait être traversé. La sensation portait en elle un bonheur qui frôlait les larmes. Parce qu'avec le poids du corps, la douleur au ventre et au cœur disparaissait. C'était la vérité conquise chaque matin. Douleur et poids sont la même chose. En traversant les limbes, il comprenait pourquoi on extrait un rein bloqué par des calculs à ceux qui souffrent. Ainsi, il pèse moins et ne souffre plus. Il aimait les enfants. Au jardin public, il en avait soulevé un, bien haut, au-dessus de lui. Il ne pesait presque rien, et de cette hauteur, il n'y avait plus que les boucles qui pendaient vers la terre comme des choses douées de gravité. Il s'était demandé comment un corps aussi léger pouvait souffrir. Ce qui le rassurait dans la vieillesse de sa mère, c'était qu'elle devenait toujours plus légère, et donc elle souffrait moins. Il allait voir sa mère environ une fois par mois, toujours le soir, quand il se sentait lourd. Le matin, il n'aurait jamais eu besoin d'aide. Son appartement était isolé, c'était le dernier d'une des ailes de l'édifice qui ne touchait à aucun autre. Si de sa fenêtre, un fil était parti jusqu'à l'appartement d'en face, il sentait que, suspendu à ce fil, il aurait pu arriver jusque là-bas. comme le linge que les femmes de la campagne envoient d'une fenêtre à l'autre le long d'une corde. Il pouvait calculer la distance entre sa maison et celle d'en face en mètres et en centimètres. Il pouvait compter 10 grains volant dans la poussière au soleil et les suivre tous en même temps, quelle que soit la direction qu'ils prissent. Il pouvait distinguer le bruit du plafond, le crépitement de la dilatation du ciment lors du passage de la nuit au jour, le sautillement du moineau, la chute des gouttes. Il pouvait entendre le tic-tac de sa montre ou au contraire s'empêcher de l'entendre. Il se sentait maître de lui et de l'espace. Il pouvait planer en sortant par la fenêtre. L'unique chose qu'il ne pouvait faire était celle-là même vers laquelle il tendait de toutes ses forces, se souvenir de ce qu'étaient les limbes à peine en était-il sorti. Cela, seulement cela, lui était impossible. Entrant dans les limbes, tous les souvenirs des limbes précédents lui revenaient un par un ou tous ensemble, comme lui revenaient les mêmes questions et il répondait à celles demeurées sans réponse. Il ne savait pas pourquoi, sur le mur face à la fenêtre, marchaient des ombres, la tête en bas, il se le demandait chaque fois. Il ne savait pas ce qu'étaient ces choses qui, peu de temps avant que ne commencent les limbes, roulaient vers lui, l'obligeant à s'arrêter. Sphères ou cylindres, légers comme des ondes, mais il se souvenait que la première fois qu'il les avait vus, c'était la nuit, durant son enfance. Il avait alors une forte fièvre, il venait d'être opéré, et la chaleur de son sang avait excité tout son corps au point qu'il s'était masturbé, mais il n'était pas sûr que cela lui soit arrivé, réveillé ou endormi. Depuis lors, il avait appris à ne plus distinguer entre la veille et le sommeil. En ce qu'il concernait, il n'y avait pas tellement de différence, à part la perte du poids et la multiplication des sens, ce qui n'était pas cependant peu de choses. Si on lui avait demandé d'expliquer de façon plus claire ce qui distinguait les choses des limbes de celles d'avant et après les limbes, il aurait eu recours à une image que lui seul, à Padoue, dans la cité noire, connaissait. Une image que l'on pourrait appeler musicale, mais qu'il faut bien expliquer. Il y avait un quartier universitaire à l'endroit où il habitait. Mais dans la cité noire, chaque quartier a un institut universitaire et des maisons pour étudiants. Jusqu'aux confins les plus reculés de la province, jusqu'à la route vers la mer de Chioggia, jusqu'à la villa de Piazzola, sur la Brenta, jusqu'à la région autour de l'aéroport de Tessera, jusqu'au cœur même d'autres villes. Bressanone est un avant-poste de la colonisation des Tyroliens du Sud. Asiago est un observatoire astronomique. Sur 100 personnes que vous rencontrez à Padoue, 20 sont étudiantes. Sur 100 étudiants, 20 sont étrangers. Arabes et noirs surtout, venus des colonies perdues par la France, mais aussi des Indiens et des Asiatiques amenés ici par des missionnaires et des Grecs et des Espagnols envoyés par leur gouvernement. Dans les bars, chaque groupe d'étudiants apporte dans les jukebox des disques avec des chants de son peuple. Quand vous déjeunez, il y a un noir qui a payé 50 lire pour mettre en route son disque et il se démène derrière vous en se déhanchant sur des rythmes sauvages comme s'il se trouvait dans sa tribu. Le noir parti, arrive le grec avec son hymne au phénix. Franco avait découvert dans le bar en dessous de chez lui qu'une touche du jukebox, Y13, devait correspondre à un disque très demandé mais maintenant complètement usagé. Le disque ne s'y trouvait plus. Quand il déjeunait là-bas, Franco entrait et trouvait un bouge rempli de fumée, de voix, de bruit. Tout le monde parlait et personne ne comprenait, et pour tout le monde c'était bien ainsi, vraiment bien. Franco glissait 50 lire et appuyait sur la touche Y13. Commandait un thé et le sirotait lentement. Le disque du noir se terminait par un hurlement aigu, comme si le chanteur avait voulu porter ses paroles jusqu'à Dieu. Le noir, là derrière, levait le cou et les yeux vers le plafond sur lequel des femmes nues étaient peintes. Le vacarme était insupportable. Les étudiantes criaient de joie comme pendant un coït bestial. Le disque de Franco arrivait. On entendait le déclic du bras qui se soulevait, mais qui ne soulevait rien. Et la pointe de diamant descendait sur un disque absent. Le silence tombait sur les esprits et sur les cœurs comme un poids intolérable. Tout le monde se taisait brusquement et se regardait en face comme si chacun était fatigué par la présence de l'autre. Les filles s'arrêtaient dédaigneuses, comme pendant un coït désagréable. On entendait les voix humaines de ceux qui parlaient. Le monde devenait tellement banal que chacun avait honte de ses propres paroles et préférait se taire. Celui qui avait déjà consommé sa commande payait et sortait comme un voleur éclairé par la torche de la police. Comme une torche, le silence mettait à nu les mots, les consciences et en révélait le vide. Si cela durait un peu, il arrivait que chacun se fatiguât non seulement de la présence des autres, mais de la sienne même, de son propre corps, de ses propres gestes, de ce qu'il devait dire et qu'il ne réussissait pas à dire. Plus qu'avec les mots, Chacun s'exprimait avec des gestes, et c'était des gestes de dépit. La chose dépassait le temps normal. Tous croyaient que le jukebox était cassé. Jusqu'à ce que le patron du bar sorte de derrière le comptoir, s'approche de l'instrument, glisse une pièce et fasse descendre un autre disque. Les premières notes de musique, le premier hurlement du chanteur descendaient sur les âmes, à l'écoute comme la pluie sur une campagne aride. Les yeux de l'ami cherchaient l'ami, la conversation interrompue reprenait d'abord lentement, comme pour un essai, puis toujours plus convaincu et décidé, jusqu'à ce que tout le monde soit recomposé et en ordre, chacun parlait et personne ne comprenait, mais tous étaient heureux. Assis à la même table, la fille posait une question qu'elle-même n'arrivait pas à entendre, le garçon donnait une réponse qui se perdait dans le vacarme général. Elle était très heureuse des mots qu'elle n'avait cependant pas entendus. Elle les recevait en aspirant sa cigarette et rendait sa gratitude sous forme d'une bouffée de fumée, lui tirait sur sa pipe et soufflait à son tour, les fumées s'enveloppaient, remontaient vers le plafond, et les filles seules s'échauffaient en file sur leur banquette et s'agitaient en criant comme si elles étaient les victimes consentantes d'un coït collectif. Des bêtes. Voilà. Le monde normal, c'est celui du vacarme. Le monde des limbes, c'est celui de Y13. Franco n'aurait pas su s'exprimer de manière plus claire. Passer des limbes au vacarme impliquait une douleur dangereuse, comme si les nerfs se tendaient et qu'on ne savait s'ils n'allaient pas se rompre. Passer du vacarme au limbe ne comportait aucune douleur. Au contraire, le signe du passage était justement la disparition de l'angoisse d'avant ou des angoisses. Une par une, comme des chandelles à la file qu'un souffle de vent éteint en les effleurant toutes. On sent ce souffle de vent. On sue, mais on a froid, en particulier aux pieds. Ce qui est mystérieux, c'est pourquoi tout le monde parle pour ne pas se comprendre. Et vous seul, et quelques-uns avec vous, dans la ville noire, ils forment une association appelée Extase, dans laquelle il y a également un médecin qui vous signe des ordonnances. Avez compris que l'on ne peut pas parler, du moins tant que dure Y13. C'est une chose que tous devraient comprendre, et au contraire, tous la comprennent à l'envers, tant et si bien que vous, qui vous sentez seul, commencez à croire que vous vous trompez et que les autres ont raison. Franco se rappelait un autre exemple à ce sujet. Un jour que le jukebox était effectivement cassé et que l'employé de la maison de location l'avait démonté pour le réparer, un groupe de filles d'une quinzaine d'années, ne pouvant pas supporter le silence, avait amené dans le bar un manche-disque. Et l'ayant posé sur la table, elles enfilaient disque après disque, le doigt sur la touche à enfoncer ou à soulever pour régler la vitesse à 33 ou à 45 tours. Il y avait un disque au sujet duquel les filles se disputèrent jusqu'à la fin. Une disait 33 et enfonçait la touche, et la musique se faisait profonde et majestueuse comme l'adagio solennel d'un cœur qui suit un enterrement. Mais une autre disait 45, crachant son chewing-gum de dépit et soulevait la touche, et la musique devenait rapide et frénétique comme un carnaval de Rio. On savait qui avait raison. La musique avait un sens dans un cas comme dans l'autre, mais un sens différent. Voilà, traverser les limbes ne veut pas dire quitter le monde, mais veut dire l'entendre jouer à une vitesse différente. Problème, qui a décidé que la vitesse du monde devrait être celle d'un enterrement ? Et pourquoi ne pourrait-on, à son gré et selon sa conscience, chez soi, fermé à clé, jouer le monde à une autre vitesse? Qui pourrait l'en empêcher? Ce pouvoir, il l'a. Mettre le monde à 45 tours, et l'enterrement devient un carnaval. Tous rient en avoir mal aux mâchoires, mais avant que le disque ne se termine, les piles se déchargent et la musique ralentit. Elle descend à 33 tours, et y reste jusqu'à la fin. À ce moment, les limbes sont finies, la distance entre le mur et vous se mesure en mètres, les centimètres vous échappent, les ombres renversées, vous ne les voyez plus marcher sur les murs qu'à la condition de regarder depuis un autre endroit. Seul reste un mal de mer, mais on en émerge relativement bien, avec un effort, on peut se mettre debout, s'asseoir sur le lit. Par cet effort, on découvre que l'on a un poids et donc qu'on existe. C'est le cœur qui pèse toujours ici à gauche, plus haut que l'on croyait, et dans le ventre, ce nœud qui ne veut se défaire, juste sous le nombril, comme si la sage-femme avait fait une erreur en vous détachant de votre mère. Lentement, le poids devient votre douleur. La douleur du cœur n'est pas vraiment dans le cœur, mais dans les filaments qui l'entourent. Au point que si l'on bouge un peu rapidement, ou si l'on respire à fond, vous le faites pour essayer, on sent des douleurs longues partir du cœur comme des rayons. Vous devez donc bouger doucement et aller à la salle de bain. Maintenant que vous avez vraiment compris, vous êtes sorti de la nuit des limbes, vous êtes vivant. Résignez-vous, pour aujourd'hui encore, il n'y a pas d'issue. Aujourd'hui encore, il faut lutter. Aime ton destin. Angoisse et puissance sont sœurs. Ferdinando Camon, Occident.